Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, page feuilletée, l'agenda littéraire de Canal Académie. Georges Charpak est né en Ukraine, tout près de la frontière polonaise. Ses parents ont connu la persécution des Juifs en Ukraine. Il a 7 ans lorsqu'ils émigrent pour échapper à l'enfer de l'Est. Georges Charpak découvre alors ce qu'il nomme le paradis français. Adaptation immédiate dans le pays qui avait réhabilité Dreyfus. Tout jeune, il se débrouillait déjà dans 5 ou 6 langues. Plus tard, j'aurais pu devenir portier dans un grand hôtel cosmopolite, nous dit-il. Mais non, il deviendra un éminent physicien, prix Nobel et membre de notre Académie des sciences. Autant dire que ses mémoires ne peuvent être banales. Il les publie en 2008 chez Odile Jacob, titre à retenir, Mémoire d'un déraciné, physicien, citoyen du monde. Sur la couverture du livre, l'académicien incline vers nous un regard clair, le même qui s'est penché sur les secrets de la matière. Dès ses premières pages, sa vie passionne. Une mère qui parlait russe avec des chauffeurs de taxi, un jeune garçon qui se découvre une patrie et il en est fier, fier des héros français qu'il partage avec ses camarades de classe. Il dévore les romans de Jules Verne et d'Alexandre Dumas. Il réussit en géométrie, entre au lycée Saint-Louis en sautant des classes et surmonte sans difficulté son retard dans les matières littéraires. Il a 17 ans lorsqu'en 1939, il entre en maths sup. Mais, avec la victoire allemande, l'histoire le rattrape. Les persécutions reprennent. En 1941, refus de l'étoile jaune. Il doit se cacher sous une fausse identité. Georges Charpak devient Georges Charpentier. Prévenu d'une arrestation imminente, il doit fuir en zone libre où il entre en résistance. C'est ensuite l'arrestation par la milice française, le romantisme noir du livre de mathématiques qu'on emporte en prison, puis c'est le train vers les camps, l'esclavage nazi, les tombes qu'on vous oblige à creuser. Tout le roman vérité d'une époque maudite, mais aussi les hasards de la chance à travers les tribulations. Un récit qui prend des accents de roman d'aventure. La libération de 1944 change le décor. Le cursus de l'étudiant va reprendre. L'école des mines fait de lui un ingénieur. Mais c'est le monde des physiciens que Charpak veut reprendre. Ayant manqué une occasion de partir aux États-Unis pour faire son bagage théorique, il compense par la lecture de manuels de physique américains et se passionne pour la théorie de la relativité. Il est mûr pour apprendre le métier de physicien que va lui enseigner Joliot-Curie dans son laboratoire et sur les bancs du Collège de France. Georges Charpak est très vite passionné par l'étude des particules élémentaires et le problème de leur détection. On s'intéressait alors aux particules tombées du cosmos. On envoyait des ballons-sondes à des altitudes où elles n'étaient pas encore trop freinées par la rentrée atmosphérique. Leur niveau d'énergie permettait alors à des interactions nucléaires de se produire et on en détectait la trace sur des plaques photographiques embarquées. Le problème de la détection était bien évidemment crucial. De sa solution allaient dépendre toutes les découvertes à venir. Georges Charpak imagina un nouveau type de détecteur, sans doute la meilleure invention de sa vie, estime-t-il. Malheureusement, il ne peut le rendre opérationnel. Certaines techniques à mettre en œuvre sont alors détenues par les Russes. Il veut les rencontrer, mais n'obtient pas de visa. Il est permis de penser que les Russes protègent alors un savoir-faire utile à des applications militaires. Georges Charpak ne se décourage pas. Entre-temps, et sur le principe de son invention, il bricole un détecteur de fortune et le présente à une conférence sur les hautes énergies qui se tient à Venise. Il y a là, dans l'assistance, un certain Léon Lederman, jeune physicien américain, futur prix Nobel, et qui a déjà des travaux importants à son actif. Lederman profite d'une année sabbatique pour venir constituer une équipe de recherche européenne. Il s'agira d'étudier le muon, une mystérieuse particule dont le comportement intrigue la communauté scientifique du moment. Ce qui suit n'est rien moins que le tournant d'une carrière et l'exaltation qui en résulte lorsque le rêve d'un homme rencontre sa chance. Après la présentation, Léon Lederman, déjà célèbre donc, vient rencontrer Georges Charpak, qui en est encore à galérer avec son nouveau concept de détecteur. Or, la détection des particules, c'est le point de passage obligé de toute recherche et donc de tout progrès dans ce nouveau domaine du savoir. L'idée de Charpak ne s'est encore concrétisée que dans la forme d'un modeste prototype. Mais Lederman ne s'y trompe pas. Ce nouveau principe de détection comporte d'immenses possibilités de développement. Le physicien américain se prend d'intérêt pour son concepteur. Ce sont des hommes comme lui qu'il recherche. Léon Lederman propose donc à Georges Charpak de le suivre au CERN. Et bien sûr, Charpak accepte. Les années 50 avaient vu naître le CERN, Centre européen de recherche nucléaire, situé à Genève. Il représentait alors une volonté de remettre l'Europe à niveau de compétition avec la Russie et l'Amérique. C'est en 57 que le premier accélérateur de particules du CERN a été mis en service. Or, les accélérateurs de particules, dispensés d'aller en altitude, se mettent à l'affût des événements rares, ces fameuses interactions dont pouvaient jaillir des gerbes de particules. Avec les accélérateurs de particules, il devenait possible, dans des tunnels, de recréer les mêmes conditions de hautes énergies et donc de produire à volonté les mêmes interactions. Pour autant qu'on soit en mesure de les détecter, d'en saisir et d'en engranger les données, la recherche des particules élémentaires allait pouvoir s'en nourrir. Une compétition s'était donc engagée pour détecter et pour mémoriser ces phénomènes, et surtout pour le faire au bon moment, car ces phénomènes étaient fugitifs. Beaucoup de scientifiques s'étaient donc lancés dans cette compétition ou allaient s'y lancer. Sans conteste, grâce au développement des chambres multifiles, Georges Charpak en sortira vainqueur. Il était entré au CERN en 1959. Son succès allait être couronné par le prix Nobel de physique en 1992. Ce furent entre-temps trois décennies d'une aventure exaltante car elle recouvre l'une des périodes les plus riches de la pensée scientifique et de ses découvertes. Nous reviendrons sur les mémoires de Georges Charpak pour évoquer l'impact scientifique de cet effort conjugué entre les expérimentateurs et les théoriciens. Merci de votre attention et à bientôt pour la suite de nos émissions sur Canal Académie.